tout sur les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur le podcast Mémoire d'archives. Le dossier que nous allons aborder ce soir se déroule en novembre 1837, donc toujours à l'époque des Patriotes. C'est à Saint-Denis-sur-Richelieu que ça se produit. Et évidemment, vous l'aurez sans doute deviné, ben, c'était à la veille justement de la bataille de Saint-Denis. Alors, la victime, cette fois, vous allez peut-être être surpris, vous étonner, faire « Ah oui! » Mais la victime n'est pas un Canadien français cette fois-ci. La victime est un Anglais du nom de George Weir, lieutenant dans le 32e Régiment. Et il a eu le malheur, pauvre monsieur, d'être capturé par des patriotes alors qu'il se préparait justement à la bataille de Saint-Denis. Peu de temps après, on a rapporté à un de ses supérieurs, un dénommé Nelson, que Weir venait d'être mis à mort, rien de moins. En fait, ce qui s'était produit, c'est qu'on l'avait, après l'avoir capturé, on l'avait fait monter dans un char, donc une espèce de chariot ou une carriole. Après lui avoir fait donner sa parole, évidemment, on lui a dit « Donne-nous ta parole, que tu n'essaieras pas de t'échapper. » Évidemment, hein? Vous êtes comme moi. Si vous, si on se retrouverait dans une situation semblable, puis à la première occasion, si toutefois on avait une occasion intéressante de prendre la fuite, ben je pense que notre parole prendrait le bord, comme on dit, en bon québécois. Mais bon, les patriotes se sont quand même fiés à la parole du militaire George Weir. Et on est parti, donc un petit convoi là, qui est parti ensemble, tout ça. On peut se l'imaginer, les roues de chariot grinçant, les chevaux tapant le sol, et gna gna gna, et gna gna gna. Donc, Weir, par contre, avait quand même les mains et les pieds liés. Il a commencé à se plaindre assez rapidement d'engelure. Il commençait à avoir froid, là, c'est pauvre petit pou. C'est sûr, là, à force de ne pas bouger comme ça, puis s'il avait les mains un peu serrées, ça empêche le sang d'aller dans les mains, là, évidemment. Il y a un dénommé Mignot, probablement un patriote, là, qui a commencé à le prendre en pitié, et il a délié un petit peu ses liens pour, et en plus de lui prêter ses gants. Quelle générosité envers un Anglais, un méchant Anglais. Faut croire qu'il y avait, hein? Il y a des Canadiens français qui ont le cœur gros. Mais pour compenser, il y a un dénommé Mayette qui, lui, a ceinturé, donc a entouré le corps, on imagine que c'est au niveau de la taille, le prisonnier avec une courroie pour le tenir un peu en laisse, si on peut dire. Et au fil du chemin, ben George Weir, à un moment donné, on revient à la parole qu'il avait donnée. Il s'est retourné à un moment donné, puis il a vu de ses amis au loin qui s'approchaient. Et évidemment, ben vous l'aurez compris, il a rapidement oublié le serment qu'il avait donné et il s'est mis en tête de s'évader. Alors, il s'était lancé hors de la voiture, et quand je parle de voiture ici, c'est une voiture à chevaux, donc à traction animale. Mais Mayette le tenait solidement avec la courroie qui avait passé autour de sa taille, donc George Weir est tombé à genoux sur le chemin. Son geôlier était armé d'une vieille épée française et c'est avec cette épée française-là qu'il s'est mis à le frapper avec le plat de la lame tout en criant à l'aide. Donc, en le frappant avec le plat de la lame, ben ça l'évitait de causer des blessures plus graves, évidemment, parce qu'il n'avait pas nécessairement l'intention de le tuer, il avait juste l'intention de le ramener dans le véhicule. Il y a l'instituteur du village qui se nommait Joseph Pratt et qui s'adonnait à passer par là. Quand il a vu la scène, lui, bon, ben, j'imagine qu'il portait un sabre de cavalerie. Il était pas nécessairement militaire, mais là, j'imagine, on était dans un contexte de guerre entre Canadiens français et Anglais. Donc, les gens armés devaient être un petit peu plus fréquents dans le secteur. Et lui, quand il a vu ça, ben, il a sauté dans la mêlée, puis il s'est mis à frapper le prisonnier à coups redoublés, qu'on dit, bon, atteignant le captif au visage, dans le dos et à la poitrine. Pendant ce temps-là, ben Mignot, lui, avait réussi à arrêter son attelage. Là, je ne sais pas s'il y a eu de la difficulté et que ça y a pris un certain temps à cause d'une certaine forme de panique. Mais il est accouru au secours de Weir pour repousser Pratt. Donc, il voulait vraiment défendre son prisonnier. Donc, lui, c'est sûr, si ça s'est passé bien, bel et bien comme ça, ben, c'est sûr que Mignot n'avait aucune intention criminelle dans cette affaire-là. Mais le malheureux se tordait déjà de douleur au milieu du chemin. Il y a quelques spectateurs qui, si on peut dire, ont été pris d'une fausse pitié, se sont mis à crier, ben achevez-le, tout simplement. Et là, il y a un dénommé Lucier qui a décidé de l'achever, justement. Je pense qu'il ne s'est pas fait prier longtemps. Mais avec son fusil, peut-être à cause de l'humidité, la poudre à l'époque et tout ça, la poudre noire, c'était assez fragile pour l'humidité. Ben, à trois reprises, ça n'a pas fonctionné, ces amorces. Il a fait ce qu'on appelait à l'époque un misfired ou une fausse amorce. Donc, les amorces étaient trop humides, probablement, c'est ce que j'en déduis. Ils n'ont pas éclaté. Mais finalement, à force d'acharnement, parce que lui, il se sentait tellement bon cœur qu'il voulait l'achever pour éviter de le faire souffrir, évidemment. Et le coup a enfin parti, puis George Weir a reçu une balle en pleine poitrine. Pendant ce temps-là, ben Pratt, lui, il continuait à s'acharner sur le cadavre avec son sabre, en faisant gicler le sang un peu partout. Donc, c'est de l'acharnement rendu là, hein? C'est assez évident. Et c'est pour cette raison que je classe l'homicide parmi les homicides cautionnés par un groupe extrémiste politique. Donc, vous aurez compris que c'est dans le cadre des patriotes et tout ça. Approuvé par un groupe, ça aussi, c'est assez simple. Il n'y avait pas un seul homme d'impliqué. On voit aussi qu'il y a une certaine mixité dans la forme des armes de crime. Donc, à la fois, on a utilisé des armes blanches et une arme à feu. Et comme vous l'aurez compris, là, de ce que j'ai dit en dernier, ben, il y a eu de la surpuissance. De la surpuissance, c'est quand on s'acharne véritablement sur la victime. Et puis souvent, ce que ça signifie, on fait attention dans nos significations, évidemment. Ça signifie souvent qu'on veut absolument que la personne décède. Donc, il y a vraiment l'intention criminelle est multipliée par je ne sais pas combien, mais de beaucoup. Alors, la surpuissance indique ça. Et bon, en tout cas, il y a au moins Pratt là, qui en a fait preuve. Peut-être pas toute l'équipe, mais Pratt, là, l'instituteur en tant que tel, lui, c'est assez clair. Là, il avait perdu la boule, comme on dit. Il frappait, puis il n'y avait plus personne pour l'arrêter. Ensuite, ça a pris une tournure un peu étrange, là. C'est assez spécial. Parce qu'on a vu le capitaine François Jalbert qui, lui, il a assisté à une partie de la scène, donc on imagine qu'il est arrivé vers la fin. Et puis, sans trop qu'on sache pourquoi son rituel, il a trempé la lame de son sabre dans le sang de la victime pour ensuite aller se vanter d'avoir tué un Anglais. Donc, voilà, il manquait peut-être d'Anglais à tuer, donc quand il en a vu enfin un de mort, s'en est vanté. De leur côté, François Mignot, Jean-Baptiste Millette, Joseph Pratt et Jean-Baptiste Lucier ont été arrêtés en lien avec ce meurtre, évidemment. C'est pas parce qu'il y avait un contexte de guerre entre Canadiens français et Anglais qu'on n'allait pas sévir, justement. Surprise, les Canadiens français qui ont été accusés dans cette affaire-là ont tous été relâchés en 1838. Alors, c'est pour ça que vous avez pu en douter à un moment donné, là, mais c'est pour ça que c'est quand même resté une affaire non résolue. Ce que je viens de vous raconter, c'est les comptes rendus de l'époque, mais puisqu'il n'y a pas eu de condamnation, on peut en douter. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça? Donc, c'est plate à dire, mais on vient de savoir comment ça s'est passé, mais c'est pas supposé d'être comme ça. Mais non, finalement, c'est ça. Ça a été. Ils ont été relâchés, donc j'oserais peut-être pas dire acquittés, mais bref. François Jalbert, lui, sera le seul à subir un procès, par contre, pour meurtre en septembre 1839, donc 2 ans plus tard. Et il a finalement obtenu un non-lieu pour manque de preuves. Alors voilà, c'est ça. Il s'en est vanté. C'est peut-être ça qui a fait attirer l'attention sur lui pour pousser la justice à déposer une accusation. Mais bon, bref, il s'en est peut-être vanté, mais c'était pas lui. Alors, voyez-vous, soyez prudents. On a vu d'autres cas récemment, je les nommerai pas toutes parce qu'à un moment donné, ça a fini par être redondant. Mais c'est pas parce qu'on se vante d'avoir fait un crime qu'on l'a nécessairement commis. Alors, merci. Bonne soirée.